Je vous propose un petit quart d'heure pour finir, comme on a commencé ce matin, exactement dans la même perspective. Ce qu'on voulait vous montrer, donner à voir ce matin, c'était un travail collectif, outillé, et je l'avais mis dans mon diaporama à la ligne du bas, sur, une fois qu'on sait ce qu'on sait, comment on fait concrètement en matière d'organisation et d'ingénierie de formation. Ce que je vais vous présenter, c'est une histoire parmi d'autres. On en a fait beaucoup. Il y a plusieurs manières de le faire. C'est un dispositif. L'histoire, c'est un rectorat qui travaille avec un inspecteur d'académie en disant comment est-ce qu'on pourrait construire une formation efficace avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Et à partir d'une question que se posent les enseignants, et la question qu'on identifie tout de suite, c'est... on va prendre une question que tout le monde dit comme être cruciale. Et on se pose un certain nombre de questions. Dans les questions qu'on se pose dans la préparation de la formation, pour appeler ça l'ingénierie de la formation, vous allez retrouver du terrain connu, hein. Je m'excuse, c'est pas très intelligent ce que j'ai fait par rapport à la richesse des débats qu'on a eus. Sur la question des difficultés de comportement, il n'y a pas qu'une seule explication. Et vous l'avez dit tout à l'heure, entre ce que disent les médecins, les troubles, les machins, les trucs, je vous la fais court. Il y a plein de gens différents qui pensent des choses différentes sur pourquoi les gamins sont perturbés, perturbateurs, etc. Est-ce que on peut essayer, avec les enseignants, de faire un travail d'enseignant sur cette question-là, c'est-à-dire de prendre la question de la perturbation scolaire, référée au contexte scolaire. Puisqu'on est enseignant, on essaye de se préoccuper de ça. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire dans le cadre scolaire, pas seulement dans la classe, mais dans tous les dispositifs. Vous avez cité les RASED, vous avez raison. C'est quelque chose qui contribue. Donc une fois qu'on a posé ça dans le décor, on se pose la question du comment. Donc là, on a un projet qu'on pourrait dire politique, c'est-à-dire réhabiliter les capacités d'agir des enseignants sur la question de la perturbation scolaire, mais on aurait pu en prendre une autre. C'est-à-dire pas seulement envoyer les gens vers les orthophonistes ou vers les rééducateurs et en disant rendez-nous quand ils sont réparés. Donc, bien sûr, la question des partenariats, elle existe aussi avec l'extérieur, mais bon, c'est pas le cœur du sujet. Donc, dans le commun, on réfléchit avec l'inspecteur d'académie et l'organe de formation. Dans chaque académie, il y a des gens qui font comme ça. Et donc, on décide des modalités. Les modalités de formation et de travail, on les pose comme ça. On va mettre en stage l'ensemble des personnels qui sont concernés par la question. Donc, les enseignants, les personnels des RASED, les référents, les personnels de circonscription, les conseillers, les inspecteurs, mais ils sont pas formateurs, ils sont stagiaires. Et il y a d'autres gens qui viennent pour assurer l'animation de la formation. Deuxièmement, le but du dispositif, ça va être, on va accompagner les gens, c'est-à-dire que on va essayer de travailler dans le temps long. Troisièmement, on va étayer la réflexion et le travail de ce groupe avec un cycle de conférences dans lequel on va proposer à des intervenants qui traitent majoritairement ou à la marge de ces questions-là de venir faire des conférences le mercredi sur lesquelles les gens s'inscriront sur la base du volontariat mais qui renforcera le dispositif. Et enfin, avec l'inspecteur d'académie, on arrive à le décider, à faire que il est une journée possible parce qu'il y a des PE2. Enfin, on trouve les bidouilles possibles pour que ces enseignants-là, ils aient du temps libéré en autonomie dans leur établissement, dans leur école, qui sont des temps qui sont inscrits comme des temps de formation sur lesquels il y a un contrat avec les formateurs, mais qui sont du temps où ils sont dans leur école sans élèves. Alors. En même temps que je vous dis ça, je vois bien que vous dites, ben oui, mais pourquoi c'est possible là, etc. Alors, je vous le dis en une seconde, c'est possible. Donc, puisque c'est possible, c'est possible. Et c'est possible parce que à un moment donné, ça grège des gens qui ont des volontés politiques, c'est-à-dire que là où ils sont, comme ça a été dit ce matin, hein, c'est-à-dire que Cherbourg, c'est pas par hasard Cherbourg, c'est qu'il y a des choses qui se rencontrent et qu'à un moment donné, des gens bossent ensemble et qu'on a un IA intelligent, un chef de service du service de formation qui a des valeurs, des ingénieurs de formation et puis des IEN qui ont envie de se lancer. Et pour un IEN, avoir envie de se mettre stagiaire dans un groupe, c'est pas simple. Et puis, un petit outil de communication pour faire les intercessions, mais c'est un peu anecdotique. Alors, point de départ. Là, je vais donc maintenant essayer d'être sur une question centrale qu'on a travaillée. Pour moi, mesurer l'impact d'une formation, c'est mesurer le déplacement des questions que se posent les enseignants. Et donc, je vais vous montrer là simplement des verbatims de questions que posent les enseignants et de manière dont ils portent les questions au départ de la formation. Donc, au départ, les enseignants disent, vous l'auriez juré, c'est parce que les enfants ont des problèmes familiaux, l'école, c'est plus ce que c'était, l'enfant roi, ils sont mal élevés, on est dépassé. C'est-à-dire que là, franchement, on fait tout ce qu'on peut, mais là, on n'en peut plus. Parce qu'il y a un Kevin, ça va, mais trois Kevin, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Et nous, le sentiment de ne plus en pouvoir, d'être dépassé, etc., c'est vraiment un truc qui s'exprime extrêmement fort. Et enfin, un discours assez fort des enseignants sur « ils ont des troubles » parce que la recherche nous dit qu'ils ont des troubles. La recherche, elle rentre aussi dans les établissements scolaires. Et là, c'est troubles du comportement, traitement, etc., détection précoce, tous ces machins-là, ça rentre. Voilà. Et donc, dans les demandes initiales que les gens font aux formateurs à la première session, c'est voilà ce que disent les collègues. Nous voulons que cette formation nous permette des pistes concrètes pour résoudre nos problèmes, des trucs, des ficelles qu'utilisent les collègues. Nous voulons une information sur ce qu'ils ont comme maladie. Parce qu'une fois qu'on sera informé sur ce qu'ils ont comme maladie, alors ce sera plus facile pour nous de travailler avec eux. On voudrait apprendre à travailler avec les familles, parce que si quelqu'un nous apprenait à travailler avec les familles, ça serait mieux, parce qu'on sait bien qu'on aurait besoin de travailler plus avec les familles, mais on ne sait pas tellement comment. Il y a aussi des enfants handicapés qui sont dans nos classes au titre de la loi de 2005, et tout ça, ça perturbe aussi, parce que quand on a un autiste dans la classe, c'est une chose, mais quand on a un trisomique, c'est une autre, puis quand il se met tout nu dans la cour, on ne sait plus trop comment faire, et voilà. Il y a un truc qui est vraiment compliqué pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est en situation critique? Donc c'est quoi les trucs qu'il faut faire, pas faire, est-ce qu'on a le droit de les attacher, tout ça? Comment on fait face aux enfants violents? À quel moment on peut les sortir de la classe? Enfin voilà, des vraies questions. C'est-à-dire que je les raconte là en ayant l'air de m'en moquer, mais ce sont des questions excessivement difficiles. Et on commence à creuser avec les collègues en leur disant, ben écoutez, ça, on va essayer de le mettre au travail avec l'idée que nous, on va déjà partir de ce que vous dites et de ce que vous savez et on va a priori le considérer comme légitime. Et donc ça veut dire qu'on va déjà vous demander de prendre le temps nécessaire d'accepter de ne pas répondre tout de suite à vos questions. Et c'est assez compliqué hein, au début avec un groupe d'enseignants. Voilà, on va essayer de se poser cette question-là, c'est que nous, on voudrait bien que la formation, ça nous aide à nous sentir mieux dans notre boulot, quoi. Mais nous, on l'accepte comme tel. Alors, parole, je vous ai mis un petit verbatim. Le petit verbatim, vous allez voir, c'est des gens que vous connaissez. Nous, quand on est en classe, le problème, c'est qu'il y a tout à faire en même temps, dans l'urgence, et comment on fait? On a l'air d'être complètement déprofessionnalisé. On ne sait plus quoi faire face à ces difficultés. On est tout seul. À chaque fois qu'on a une difficulté, il y a à qui on peut demander. On est tout seul avec ce collectif classe, tout seul, tout seul, tout seul. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas réagir uniquement dans l'urgence, mais arriver à anticiper les situations? Et puis, il y a des collègues aussi, parce que ça irrigue la formation, et que dans ce paquet de collègues-là, il y a des gens qui travaillent dans la ZEP, qui ont travaillé avec Yuri dans le CAREP, qui ont vu Bonnery dans une conférence, qui ont été très impactés par la conférence de Bonnery, et ils ont dit, nous, il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est on veut voir les implicites dans les apprentissages. La formation précédente a impacté un petit bout du groupe. Mais quand ce petit bout du groupe dit ça aux autres, les autres leur disent « c'est vraiment pas de quoi vous nous parlez, vous, mais c'est pas du tout notre problème. » Ce qu'on a fait dans cette formation, alors je vous le mets comme ça en liste, j'ai fait plus de la moitié. On a essayé d'organiser l'activité des collègues. Donc, dans les petits moments où ils étaient tout seuls dans leur école, dans les petits moments où ils étaient dans leur classe, dans les petits moments de regroupement avec les stagiaires, enfin avec les formateurs, etc., autour de ces questions-là. Bon, elles sont assez claires. Si vous arrivez à les lire, je pense que c'est pas la peine que je les parle. Ça veut dire que avec quelques collègues, très peu, on peut rentrer dans la classe, aller filmer. Avec d'autres collègues, c'est nous, on va se mettre le jour où on travaille pas, où il y a les remplaçants, on va se mettre dans un coin vers les cabinets, on va regarder ce qui se passe. Il y en a une qui dit moi, ce que je vais essayer de faire pour la prochaine fois, c'est je vais regarder un gamin en particulier, je vais prendre des notes sur ce qu'il fait. On va essayer de lire un peu des choses, des textes qu'on leur propose sur le blog. On va essayer de prendre de l'espace parce que c'est bien, on a du temps une fois de temps en temps et du coup c'est bien parce que des fois le jour de décharge on fait pas que de bosser, on mange aussi des gâteaux ensemble et comme il y a l'aide personnalisée en ce moment c'est un peu compliqué, ça nous fait du bien. Et puis on va essayer de préparer ensemble deux trois choses, en particulier se dire la séance de PS qu'on prépare tout seul, est-ce qu'on pourrait la préparer à plusieurs, etc. Donc ce que je vous raconte, c'est un an de travail, je vous le raconte très vite, avec donc une co-animation du dispositif, co-animation du dispositif avec des chercheurs de l'INSHEA, l'équipe option E de l'INSHEA, donc l'ex-Suren, des gens du service formation, des formateurs, et puis donc les IEN, les conseils pédagogiques, sont toujours stagiaires, enfin quand ils peuvent être là. Parce que des fois, l'IEN, il est pris par une réunion, il n'a pas pu venir à la session de formation. C'est compliqué pour lui, d'être là. Alors, je vous l'ai fait comme ça, je cherchais à faire très très court. On a essayé de mesurer avec les collègues quel avait été l'indice de confort qu'ils avaient eu durant la formation. Alors, je vous passe sur comment j'ai fait pour avoir le chiffre, mais voilà. Donc, il y avait trois groupes, il y avait des cycles 1, des cycles 2, des cycles 3 dans la formation. Ce qui est de ce côté-là, c'est le début de la formation, là c'est la fin. Et plus c'est haut la courbe, et plus ils sont en situation de confort, et plus c'est bas, plus ils sont en situation d'inconfort. Donc c'est des questionnaires individuels que je leur fais remplir à chaque session ou un peu après la session, enfin je vous passe la procédure, vous en fichez. Mais en tout cas, et quand je montre ça à des psychologues, ils me disent ben ouais, c'est normal, toute situation d'apprentissage c'est comme ça, pourquoi ça t'inquiète ? C'est-à-dire que, évidemment, vous avez tous compris, c'est que pour nous, l'intérêt de ça, c'est de montrer que le temps long, forcément, il a permis de dépasser, dépasser les instabilités, en se disant, on a quelque chose qui contient. Et la première réaction d'un collègue, je me rappelle, ça a été de dire, pour une fois qu'on nous demande pas de faire un truc pour demain matin. Vous l'avez dit, hein, les collègues. Pour une fois qu'on a du temps. Alors, mais bien sûr, ça n'empêche pas qu'ils ont été donc. Hein, alors après, je peux faire 1000 hypothèses psychologiques sur. Mais vous êtes aussi qualifié que moi pour le faire. Qu'est-ce que ça a apporté pour moi, de mon point de vue, de mon point de vue de co-animateur de cette formation-là, c'est qu'évidemment, dans la formation, on a brassé tout un tas de choses par rapport à ce qu'on se posait comme question, la question des entrées théoriques. C'est-à-dire que des fois, on a été sur la didactique. Des fois, on a été sur le rapport au savoir. Des fois, on a été sur la clinique de l'activité, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que tu fais comme geste professionnel, comment tu t'y prends pour, etc. Et donc, on a été interrogé un certain nombre de registres théoriques. Hein. On a été travaillé avec le boulot des gens du CNAM, avec le boulot d'ERGAP, on parlait de SOJA, avec ESCOL, et plein d'autres choses. Et que, évidemment, faire une formation, c'est brasser des choses de tout ça. Alors, en même temps, c'est compliqué parce que le formateur, il n'est pas présumé compétent dans toutes les entrées. Donc, on fait, en tant que formateur, comme les enseignants, on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on est outillé, avec des petits bouts de choses et on va taper dedans au fur et à mesure qu'on agit en fonction de nos propres capacités à apprendre des points de vue théoriques différents. Ou voilà. Dernière diapo, je vous montre au bout d'un an les paroles des collègues. C'est du verbatim, ce que je vous dis là, c'est du verbatim enregistré, des paroles, donc ça s'appelait Circo Réseau, celle-là, mais voilà, je laisse juste lire. Alors ça, ça mérite explication, c'est parce que au début, moi j'appelais ça le stage filet, parce que c'était filet. Et eux, ils ont appelé ça le stage filet, parce que on est tous ensemble, et que quand il y a un maillon qui pète, je vous passe les détails, mais il y a eu plein d'anecdotes. Quand il y a un maillon qui pète, on sait qu'on va se raccrocher avec le reste et qu'on n'est pas tout seul pour gérer le cirque. Et avoir entendu dans une formation un inspecteur dire « oui, des fois, moi, je sais pas et je sais pas comment faire », un membre de RASET dire « oui, moi, je sais pas comment faire », c'est-à-dire porter collectivement le poids de la difficulté, conceptualisation, C'est vos débats, hein. Enfin, c'est nos débats, excusez-moi. Les CMC, ça veut dire les conseils de maîtres de cycle. Et là, je renvoie à ce que nos collègues de Cherbourg nous ont dit ce matin, qui était très important dans leur dispositif. C'est qu'à un moment donné, les collègues ont décidé de mobiliser l'ensemble de ce qui était disponible, c'est-à-dire l'ensemble du peu de disponible, pour ne travailler que sur une seule chose. C'est-à-dire que là, cette année, dans la ZEP, les gens ont décidé de ne travailler que sur rapport au savoir et malentendu dans les apprentissages, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Ils ont pris en charge collectivement les animations, ils ont pris en charge les conseils de maître de cycle. Alors, ils ont des petits bras, et c'est exactement pour moi la même histoire que Cherbourg, avec moins longtemps, moins d'appui, moins de force, etc., parce que c'est, ça n'a qu'un an d'existence. Et effectivement, la seule chose que dont je peux vous assurer, c'est que l'inspectrice me dit tous ces gens-là, c'est des énervés de la grève. C'est-à-dire, ce n'est que des gens qui n'arrêtent pas de gueuler tout le temps, que ça va pas, qu'il n'y a pas assez de moyens, etc. Et en même temps, c'est aussi ceux qui... Ben oui, parce qu'on est là, on s'y met, on n'a pas le choix, etc. C'est-à-dire que c'est pas ou d'un côté on résiste ou on est de l'autre côté béni. Oui, vous l'avez dit aussi déjà ce matin. Et donc, cette question de la modification pour eux, bien qu'ils soient, hein, j'insiste là-dessus parce que c'est pas juste des béni oui-oui ou des bons enfants. C'est des gens qui ont changé la manière dont ils avaient perçu les quatre collectifs qui étaient à leur disposition. Combien de temps ça durera, qu'est-ce qu'ils en feront, de quoi ils auront besoin pour continuer comme outillage théorique, comme accompagnement, etc. Bien sûr, je ne sais pas. Peut-être que ça sera de plus en plus difficile de faire de la formation dans ces conditions-là. Mais voilà, on a plusieurs belles histoires comme ça, de choses qu'on a menées, qui étaient le fruit à la fois d'engagement politique, de volonté d'ingénierie de formation. Et il me semble que chacun là où on est, c'est peut-être quelque chose qui permet, en tout cas moi, c'est ma façon de vous dire comment j'articule ces questions-là de recherche, de formation, de transfert, d'entrée didactique, de multiples référencements, etc. Merci, excusez-moi pour l'heure. Pensez à ramener les petits bouts de feuilles demain. Demain, la journée sera animée par une autre collègue du Centre Alain Savary. On sera tous là, mais on l'a travaillé collectivement. Merci pour votre participation. C'est personnellement un vrai plaisir que de travailler avec vous.